La revue de presse, Claude Askelovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez d'une fusion.
Entre une femme et un texte qu'elle construit, dans lequel elle veut se dissoudre, et ainsi José Camus, une grande traductrice littéraire, qui nous a notamment acclimaté Philippe Roth, explique sa passion. J'ai toujours aimé me rouler dans la poussière des autres, porter des vêtements de seconde main, des bijoux anciens. Avec le temps, la mémoire embue le texte. Je me le rappelle tantôt dans l'original, tantôt dans ma traduction. J'ai réussi à me dissoudre dans l'œuvre. Vous lisez ce mysticisme dans Télérama, extrait d'un livre que José Camus a conçu, le dictionnaire amoureux de la traduction, qu'ont déjà évoqué bellement l'Express, Le Monde, Le Point, à qui elle expliquait que le traducteur est un obsessionnel dont la patience est sans limite, et comment elle ne savait pas traduire la tristesse de Macbeth à la mort de sa femme. Out, out, brief candle, chandelle éteins-toi, ça n'a pas de sens. Le mois dernier, ici même, Nicolas Demorand, dans son 80 secondes, avait été bouleversé par Dame Camus. Mais si j'y reviens ce matin, c'est pour d'autres mots qui m'ont accroché l'œil dans Télérama, José Camus évoquant, c'est pour cela qu'il est dur de le traduire, Henry James, comme un maître, je cite, de l'indécision du sens, et ce sens indécis me travaille, journaliste qui prétend au réel. Dans Télérama encore, la prix Nobel de littérature 2018, Olga Tokarczuk m'éclaire dans mes confusions. Elle dit que nous vivons une crise de la description, que le réalisme ne suffit plus à dire notre monde et ses interactions, la bouteille en plastique que nous laissons traîner et qui bientôt sera dans notre estomac. Elle dit, Tokarczuk, qu'il faudrait porter un regard animiste sur le monde, le voir comme s'il était rempli de diverses existences qui chacune possède leur subjectivité. Elle dit que c'est plus simple à concevoir pour une femme du centre de l'Europe, où moins que chez nous, on tient pour tangible le grotesque, l'absurde, la magie, la poésie, les rêves, les peurs. Elle dit que nous devrions essayer de ne plus nous définir par nos passeports, mais par les rivières dont nous dépendons pour vivre, qui ressemblent à des réseaux nerveux. À la journaliste qui l'interroge, elle dit « Ne pourriez-vous pas être sénienne et moi odérienne ? » Et je me suis demandé si j'étais un sénien, moi parisien, ce lendemain d'une défaite du PSG, que le grand ancien Édouard Cissé définit ainsi dans l'équipe, hier contre Dortmund, comme un hamburger froid avec des frites molles. Oui, c'est notre imaginaire.
Et on parle aussi de vignes.
Qui donne du bon vin dans trois villages cernés par une guerre, mais pour l'instant épargnés. Rmesh, Ein Ebel et Debel. Le Figaro en revient, au sud du Liban, à la frontière d'Israël. Trois villages chrétiens neutre dans le conflit entre le Hezbollah chiite et l'armée israélienne. On ne sait pas, dans ce village, qui détester en premier. On vit des absurdes concrets. Faut-il traiter sa vigne alors qu'on ne sait pas si Israël ne va pas envahir le pays ? Pourra-t-on vendanger quand des parcelles sont déjà constellées d'obus non explosés ? Un apiculteur a fait intervenir les troupes de l'ONU pour pouvoir évacuer ses abeilles dans les ruches qu'il avait posées sur la ligne de front. Derrière la colline, il est un village chiite, Ait al-Shaab, couvert de cendres et de poussière dont la population a fui. Il est une base arrière du Hezbollah. On ne veut pas subir le même sort. En 2006, lors de la précédente guerre, on avait hébergé des réfugiés chiites, mais un membre du Hezbollah était venu visiter sa famille. Israël avait bombardé. Donc en octobre, on a décidé de ne plus accueillir les voisins. Il y a deux mois, des combattants du Hezbollah sont venus à Rmesh et ont voulu lancer des roquettes sur Israël depuis ses ruelles. Les habitants les ont chassés. Dans Télérama encore, très riche aujourd'hui, j'entends le hurlement qui a poussé un homme d'amour, le médecin humanitaire Raphaël Pitti, dans un hôpital de Gaza, alors qu'il essayait de sauver une jeune femme dans le coma, brûlée, mais il ne pouvait pas travailler, trop de monde agglutiné. J'ai explosé, je suis resté sans voix, c'était du sens. Et au-delà de la colère de Pitti qui décrit Gaza, vous lirez que ce n'est pas seulement dans les guerres d'Israël que l'on chasse désormais l'humanitaire des conflits. Ce 8 mai, nos journaux nous disent des héroïsmes d'autrefois au temps de la victoire contre le nazisme. Lisez dans le Dauphiné libéré une phrase magnifique d'une jeune femme qui sauvait des enfants juifs et que les nazis ont tué le 8 juillet 44 près d'Annemasse. Elle s'appelait Marianne Cohn et dans un poème avait écrit ceci « Je trahirai demain, pas aujourd'hui, nos mémoires la gardent ». Elle garde aussi notre mémoire, une jeune fille de 16 ans que ses compagnons de maquis portèrent blessée à mort à l'abbaye de Bourras à Saint-Malo en Donzois, qui était blonde, avait un grain de beauté sur la gorge, un chemisier bleu pâle. Elle s'appelait Huguette Geoffroy, entendez son nom. Dans le Maine libre, lisez une fillette qui s'appelait Jacqueline et qui est morte le 13 juillet 1944, allant chercher le lait, écrasée par un convoi allemand qui évacuait la ville. Et dans les méandres des mémoires, ce n'est pas tant de sa petite sœur que parle son frère Jean, mais des souvenirs de l'occupation, des boches, comme on disait, et de la viande que papa bouchait, donnait à ceux qui n'avaient rien. Dans le télégramme enfin, on se souvient de Bruse, Bourg-Breton, que les Alliés par erreur bombardaient le 8 mai 1944, tuant 183 civils, ces civils que quelques mois plus tard on allait libérer. L'absurde, nous ne l'avons pas inventé.
On parle enfin, Claude, d'un enfant
dont la beauté sur le site Street Press va vous renverser le cœur. Oh, elle était immense, l'espérance qui habitait les traits de Mustapha, 16 ans, il faisait moins 1m65, un de ces gamins du Maroc venu chercher une autre vie ici et qu'on retrouve à Barbès, oui, tout près de chez moi à Paris, regardant des enfants heureux qui sortent de l'école ou traînant dans un square, dormant dans un lavomatique, la peau striée de stigmates des drogues, l'esprit perdu dans les substances. Lisez-le, mon voisin que j'ignorais, puisque c'est mon quartier. Il était passé par l'Espagne, il y était heureux, puis venu à Paris, il s'est perdu et s'est finalement pendu dans une prison. Sa maman, qu'on a retrouvée au Maroc, était à ses côtés, au moment de sa mort. Dans Le Monde, enfin, vous lirez comment pour des mafias, des adolescents deviennent des tueurs, et puis devant la police, s'attristent après leur forfait du sort des enfants de leurs victimes qui grandiront sans père. Nous vivons une crise, pas seulement de narration.